Il est 8h30 à Paris, 2h de moins en temps universel. L'actualité africaine, bonjour Xavier Besson.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous. On fait le bilan ce matin des consultations menées depuis 2 semaines à Kinshasa et qui sont désormais terminées. Alors que le président Félix Tshisekedi souhaite un gouvernement d'union nationale pour faire face à la situation de guerre dans l'Est, des consultations boudées par les opposants, à l'exception notable de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. La République démocratique du Congo, où par ailleurs le ministre de la Défense était en début de semaine, à Uvira au sud Kivu, à la rencontre des groupes armés Wazalendo. Et la RDC, où Joseph Kabila annonce un retour, l'ancien président pourrait rentrer au pays dans les prochains jours. Dans ce journal également, reportage à Libreville au Gabon, alors que la campagne électorale vit ses derniers jours avant l'élection présidentielle samedi. On s'intéresse ce matin aussi aux conséquences pour les pays africains des nouveaux droits de douane américains. Ils sont entrés en vigueur ce matin. On parlera football, quart de finale, retour de la Ligue des champions africains. Et écologie, c'est notre dossier ce matin, avec un spectacle de danse et de théâtre qui commence aujourd'hui à Kinshasa, qui commence une tournée sur tout le continent et même au-delà. 2 semaines de discussion, pour quel bilan en République démocratique du Congo? Viennent de s'achever les consultations voulues par le président Félix Tshisekedi pour élargir le gouvernement dans un contexte de guerre dans l'est du pays. Kinshasa qui souhaitait un gouvernement d'union nationale mais qui n'a pas trouvé grâce auprès de la plupart des opposants. Correspondance de Pascal Moulégois.
Sans grande surprise, les principales figures de l'opposition ont décliné l'invitation du président de la République. Une exception, l'ancien premier ministre Adolphe Muzito, dont les récentes prises de position laissaient présager ses rapprochements. D'autres personnalités moins connues du grand public, comme Moïse Monidela et Jeannot Lompépé, ont répondu à l'appel. Plus de 90% des participants à ces consultations provenaient de la majorité présidentielle, chacun venant défendre les intérêts de son propre parti. Vital Kamerhe s'est distingué en plaidant pour une approche plus inclusive, mettant l'accent sur la nécessité de dialoguer en priorité avec les acteurs impliqués dans les conflits qui ravagent l'est du pays. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a pour sa part exprimé des réserves quant à la formation d'un nouveau gouvernement. Il a proposé le maintien de l'équipe actuelle, a enrichi de nouvelles figures jugées compétentes. Le conseil spécial devrait remettre son rapport au président Félix Tshisekedi dans les prochains jours. Reste à savoir si cela débouchera sur la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale que le chef de l'État souhaite comme levier pour affronter les défis sécuritaires dans l'est. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
Et parmi ceux dans l'opposition qui n'ont pas pris part à ces consultations, il y a le PPRD de Joseph Kabila, l'ancien président, qui annonce un retour au pays, lui qui vit à l'étranger depuis 1 an environ, retour qu'il justifie dans une déclaration écrite par la situation sécuritaire et institutionnelle du pays. D'après ses proches que nous avons joints, ce retour pourrait avoir lieu dans les prochains jours par l'Est congolais, des proches qui n'excluent pas que l'ancien président prenne part aux activités de l'AFC M23. Lui n'en dit rien dans son communiqué. Plus de détails dans 1 heure dans le prochain journal Afrique sur RFI. Et à propos justement du conflit dans l'Est congolais, où le M23 soutenu par le Rwanda occupe de larges pans des provinces du Nord et du Sud Kivu, avant-hier lundi, le ministre de la Défense congolais était en déplacement à Uvira, la deuxième ville du Sud Kivu, rencontre notamment avec des groupes armés Wazalendo, ces miliciens locaux alliés de l'armée congolaise et qui parfois, et de plus en plus visiblement, semblent s'affranchir des règles. Explication avec Patient Ligodi.
Souvent natifs à des zones de conflit, les Wazalendo connaissent bien le terrain. Ils sont parfois en première ligne face à l'AFC M23, mais à Uvira et dans la région, ils n'hésitent pas à désarmer certains militaires et FRDC accusés de pillage. Eux-mêmes ne sont cependant pas exempts des critiques. Uvira, devenu chef-lieu du Sud Kivu depuis que Bukavu est contrôlé par la FCM23, connaît un regain d'insécurité depuis la mi-février. Une période marquée par l'évasion massive de la prison locale et l'afflux de militaires venus de plusieurs fronts. Les Wazalendo, ces groupes hétéroclites appelés volontaires de la patrie par les autorités, affirment défendre la nation, mais lundi, face au ministre de la Défense, leurs délégués ont exprimé leur ras-le-bol. Où sont les moyens dont on parle? Nous manquons des logistiques et même de nourriture. Si nous n'avons rien, nous irons nous servir auprès de civils. Certains d'entre eux sont accusés de détournement aux postes frontières, facilitant l'entrée de marchandises sans paiement de droits des douanes, notamment depuis la Tanzanie et le Burundi. actes. Il y a 5 jours, une dispute autour de ces pratiques a fait 1 mort et 4 blessés. Face à cette situation, la société civile demande une identification claire de ses combattants. Tenue distincte, brassard numéroté pour éviter les abus.
Patient Ligodi. À propos de l'Est congolais, notez que le conseiller spécial du président américain Donald Trump pour l'Afrique était à Kigali hier après des visites ces derniers jours à Kinshasa, à Nairobi et à Kampala. Massad Boulos qui estime qu'il y a de bons signes pour la paix dans l'Est congolais, mais qui dit aussi que les États-Unis ne sont pas impliqués dans ce qu'il qualifie de détails en parlant du dialogue entre les parties au conflit. Sachez aussi que les 3 Américains condamnés à la peine de mort pour leur participation à ce que les autorités l'an dernier avaient qualifié de tentative de coup d'État, ces 3 hommes ont été remis aux autorités américaines, leur condamnation ayant été auparavant commuée en peine de prison à vie. RFI 7h36 à Libreville. On continue ce matin de donner la parole aux candidats de l'élection présidentielle prévue samedi au Gabon. Vous avez pu entendre par exemple ce matin Alain Simplice Bungwere. Et alors que la campagne électorale vit ses derniers jours, certains regrettent la tournure qu'a pris la transition un peu plus d'un an et demi après le coup d'état du général Oligui Nguema et donc la fin de la présidence d'Ali Bongo. Reportage de François Mazet.
Il est peut-être un des derniers leaders politiques à afficher fièrement ses nombreuses photos avec Ali Bongo. Au sein du PDG, Ali Akbar Onanga Yeobege a lancé une direction dissidente, hostile à la transition. Selon lui, la rupture attendue par le peuple avec les pratiques du régime déchu ne peut pas venir de cette élection.
Cette campagne, c'est une pure supercherie. Toute cette transition d'ailleurs, on le voit, c'est la reproduction de tout ce que les Gabonais ne voulaient plus voir. Une débauche de moyens, de communication comme ça se faisait avant. De toute façon, c'est la caricature de ce qui se faisait avant. Il n'y a pas de changement au niveau de cette campagne. Et donc pour cela, eh bien, il n'y a rien à attendre de la suite qui soit différent.
Ali Akbar Onanga Yeobege ne donne pas de consigne de vote pour samedi, laisse les militants avec leur conscience. Profil opposé mais même constat, Michel Ongundu-Lunda est lui un opposant de longue date. Sa candidature a été invalidée.
Là, bon, le CTRI nous a organisé, j'ai envie de dire, un match amical entre camarades du PDG. Tout simplement parce que ce sont tous des hommes du système. Ils sont entre eux. C'est le système qui essaie de se régénérer, qui essaie de survivre. Et le vrai problème au Gabon, c'est un problème systémique. C'est désormais le système Bongo-PDG-CTRI. Il faut qu'on y mette un terme.
Michel Ongundu-Lunda a laissé sa procuration pour un bulletin blanc. François Mazet, Libreville, RFI.
104% pour la Chine, mais aussi 47% pour Madagascar, 40% pour l'île Maurice. C'est ce matin que les nouveaux droits de douane voulus par le président américain Donald Trump sont entrés en vigueur. Une guerre commerciale qui risque d'avoir pour les Africains des répercussions bien au-delà d'une simple baisse des exportations. Pour certains pays, il risque de devenir également plus difficile d'emprunter de l'argent en émettant des obligations, nous explique ce matin Alexis Bédu.
Le risque principal, c'est que les investisseurs anticipent l'appauvrissement de ces pays et doutent un peu plus de leur capacité à rembourser. Prenons par exemple la Côte d'Ivoire qui a fait un retour réussi sur les marchés obligataires l'année dernière. Nouvelle taxe douanière de 21% pour exporter aux États-Unis, donc plus de difficultés à vendre le cacao outre-Atlantique, baisse des recettes fiscales et moins de dollars en réserve de change. Les exportateurs de fèves de cacao écouleront leurs stocks vers d'autres destinations et feront entrer d'autres devises moins recherchées par les investisseurs que le dollar, d'où ces nouvelles difficultés à pénétrer ces marchés obligataires. L'effet en chaîne sera le même pour de nombreux pays du continent, explique Ange Ponou, économiste pour Sika Finance à Abidjan.
Ce sont des pays qui vendent essentiellement des matières premières. On se dit que votre capacité à tirer des dollars dans vos réserves de change peut, n'est-ce pas, avoir un impact sur votre capacité à rembourser les emprunts internationaux.
Et semaine difficile pour les producteurs de pétrole, le prix du baril chute. Le Fonds monétaire international estime par exemple que l'Angola risque une baisse de recettes de 152 millions de dollars. Pour chaque dollar de baisse du prix du pétrole, les obligations nigérianes ont également chuté ce lundi.
Alexis Bédu, l'actualité des sports avec du football. On connaît les trois premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions africaines. On voit cela dans le détail avec Sofiane Amazian, en commençant par la première qualification à ce stade de la compétition de Pyramids, club égyptien du Congolais Fiston Mayele.
Le club du Caire a souffert dans les derniers instants mais valide sa toute première qualification pour une demi-finale de Ligue des champions. Tout s'est joué à l'aller pour les Égyptiens, victoire 4-1 avec le doublé de l'artificier Fiston Mayele. National congolais, déjà auteur de 6 réalisations dans la compétition, s'est même illustré du côté de Meknès, mais son but a finalement été refusé pour un hors-jeu. Les Marocains sont passés proches de la prolongation, une victoire 2-0, insuffisante pour poursuivre l'aventure. Un deuxième club égyptien est également au rendez-vous, moins surprenant, Al Ahly, tenant du titre et détenteur du record de Ligue des Champions remporté avec 12 trophées. Les Kérotes ont mis fin aux espoirs d'Alil Alom Dourman, équipe soudanaise, entraînée par le Congolais Florent Ibengue. 1-0 à l'aller, 1-0 au retour au Soudan, 16e qualification en demi-finale dans l'histoire du mastodonte égyptien. Al Ahly affrontera les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Les Brésiliens, lauréats en 2016, ont assuré le nul à Tunis face à l'Espérance après leur court succès 1-0 à l'aller du côté de Pretoria.
Et aujourd'hui, on jouera le dernier de ces quarts de finale. Retour Orlando Pirates face au Mouloudia d'Alger. Enfin, avant de retrouver Clotilde Dumay pour la suite d'RFI Matin, notre dossier nous emmène à Dakar et à Kinshasa, la capitale congolaise où se produit aujourd'hui le spectacle The Herds, les troupeaux en français, spectacle de danse et de théâtre, spectacle de sensibilisation à la lutte contre le changement climatique, originaire de Dakar, où notre correspondante Lialisa Westerhoff a pu visiter l'atelier de fabrication des marionnettes de ces animaux, porte-parole de la crise climatique.
Une tête de gnou est découpée dans une plaque de contreplaqué. Juste à côté, Fatoumata, étudiante en sociologie et comédienne, coupe de grands lambeaux de tissu.
C'est vraiment fascinant au finish de voir le résultat.
Le résultat, c'est une dizaine de squelettes en bois articulé, des zèbres, des gnous, des singes, une girafe et un éléphant, grandeur nature et fait de récup. Sarah Desbois, chargée de la production au Sénégal.
On utilise par exemple des chambres à air qu'on trouve dans la rue pour faire l'articulation du cou et des jambes. Et ces marionnettes, en fait, vont être animées par des jeunes comédiens, artistes, danseurs.
90 artistes sénégalais seront mobilisés pour ce spectacle qui mélange danse et théâtre. Conçu par une compagnie sud-africaine, Ukwanga, ces marionnettes se veulent les porte-parole d'une crise climatique toujours plus destructrice. Hansi Visage est l'un des concepteurs des animaux.
Nous voulons vraiment créer de l'empathie avec les animaux et leurs souffrances, faire ressentir les dommages que nous infligeons en tant qu'humains à la planète. C'est une merveilleuse façon de sensibiliser grâce à la magie du théâtre de marionnettes. Ce sont des conversations visuelles, c'est du mouvement, des émotions qui dépassent la barrière de la langue et des frontières.
Après Kinshasa et Lagos, le troupeau de zèbres et de gnous envahira différents quartiers de Dakar avant de poursuivre sa route vers le nord. Lialisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Ce spectacle est donc itinérant et pour son metteur en scène, le Palestinien Amir Nizat Zouab, ce n'est pas un hasard et c'est même symbolique qu'il débute son périple en République démocratique du Congo.
Personne ne dit « Ah, nous devons sauver le bassin du Congo », mais c'est en réalité l'un des plus importants habitats naturels que nous possédons encore. C'est presque aussi grand que la forêt amazonienne. Le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon de la planète. C'est l'une des plus grandes biodiversités au monde. Mais ce n'est pas au centre de notre attention. Et bien sûr, il y a des intérêts financiers qui expliquent cela. C'est pour cela que nous voulions commencer ce spectacle ici, car le bassin du Congo raconte aussi le problème de l'injustice climatique avec un sud global qui paie le prix des péchés du nord. Nous sommes à Kinshasa et il y a des inondations géantes. C'est le changement climatique. Je pense que si on veut parler du changement climatique, il faut que ce récit commence en Afrique.
Amir Nizat Zouab, le metteur en scène du spectacle The Herd, qui est aujourd'hui à Kinshasa. Et si vous êtes dans la capitale congolaise, c'est au Jardin Botanique et à l'échangeur de Limité que cela se passe. Kinshasa, où il est maintenant 7h44. Vous êtes avec Clotilde Dumay pour la suite d'RFI Matin.